Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Hélène Rive, je suis avocat et associée chez PwC et je suis responsable de l'industrie retail et consumer en France. Donc, c'est une industrie qui regroupe les industries de la distribution alimentaire et non alimentaire, les secteurs du luxe et les secteurs des produits de consommation, donc qui vont bien sûr de l'agroalimentaire à les produits de consommation courante, en passant par l'électroménager. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous les enseignements de notre étude qui est trimestrielle et sur laquelle on fait un cut tous les 2 ans pour regarder les grandes tendances sur l'industrie retail et consumer et la consommation en France et dans le monde. Et avec moi pour partager cette étude, donc j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Duparé. Donc, Guillaume est directeur chez Écosystème. Il travaille sur les sujets d'économie éco-circulaire. Et avec nous, pour échanger avec Guillaume, Mathieu Aubusson, qui est associé et qui travaille sur des sujets d'expérience client. Bonjour Guillaume, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour
et
à tous.
Jérémy Louchambon. Jérémy, qui est directeur dans nos équipes de stratégie et qui travaille sur les sujets de croissance rentable pour nos clients. Bonjour Jérémy. Guillaume, je vous donne la parole pour que vous puissiez présenter Écosystème, ce que vous faites, et voilà, pour que tous nos auditeurs puissent bien comprendre dans quelle perspective on va échanger avec vous ce matin.
Oui, merci. Écosystème, c'est une entreprise à mission qui œuvre dans le domaine de l'économie circulaire et qui prend en charge, dans une politique de compliance, les obligations des fabricants, des metteurs sur marché d'équipements électriques et électroniques. Donc, ce sont nos téléphones portables, ce sont nos réfrigérateurs, ce sont nos consoles de jeux. Un panel de biens d'équipements, de biens de consommation très, très important. Et nous gérons pour le compte des metteurs sur marché, les politiques à la fois, ça va de l'éco-conception jusqu'au réemploi et dans quelques jours, la réparation des équipements électriques et électroniques. C'est un dispositif qui repose sur une directive et qui permet à tous les États membres de l'Union de gérer avec les parties prenantes à la fois ces activités de mise en marché, de développement d'activités et puis de création de valeur autour de l'économie circulaire.
Merci beaucoup, Guillaume. Donc, venons-en à notre étude. Donc, l'étude donc Global Consumer Insight Survey, qu'on appelle souvent notre étude GCIS, donc, qui est une étude sur la consommation. Donc, cette étude, comme je vous le disais, est réalisée tous les trimestres par PwC et donne un panorama. Donc, nous interrogeons en fait dans le monde des consommateurs sur les tendances de consommation. Nous faisons ça depuis plusieurs années et ça nous permet de déceler des tendances sur la consommation. L'avantage de cette étude, c'est qu'il y a un panel de Français qui sont interrogés dans l'étude et donc les résultats de cette enquête nous permettent à la fois d'avoir une vision des tendances de consommation dans le monde et dans différents pays du monde. Et ici, ce que l'on réalise et qu'on partage avec vous, c'est le cut France, donc les enseignements que l'on voit sur le cut France. Jérémy, peut-être, alors, il y a un élément qui est important dans cette étude, c'est qu'elle a été réalisée, les derniers questionnaires ont été réalisés fin 2021, donc bien entendu, les résultats de cette étude ne reflètent pas la situation géopolitique et macroéconomique actuelle, et bien entendu l'impact de la crise et du conflit en Ukraine. Mais néanmoins, cette étude pour nous fait apparaître des tendances dans la consommation qui sont reflétées par les réponses des consommateurs que nous avons interrogés, qui nous semblent particulièrement intéressantes à partager avec vous. Et à notre sens, bien entendu avec le sujet de la crise et les sujets autour de l'inflation, des comportements de consommation qui peuvent être très fortement impactés par cette inflation, et bien sûr des prix. Hein. Donc, néanmoins, on considère que les tendances que l'on voit et que tu vas partager avec nous, Jérémy, hein, dans cette étude, perdurent, et c'est ces sujets-là que nous voulions partager avec vous. Et voilà, à toi, Jérémy. Donc, si tu veux bien partager avec nous les. Voilà.
Si on passe sur effectivement la slide suivante sur les grands enseignements. Donc, en termes d'évolution des comportements consommateurs sur les deux dernières années. Donc, qu'est-ce qui l'en ressort finalement ? Il y a trois grandes tendances qu'on peut retenir. La première, c'est autour de la donnée. Il y a, quand on interroge les consommateurs français, on se rend compte qu'il y a une croissance de l'importance de la donnée dans leur comportement d'achat. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de questions autour comment est collectée ma donnée, comment est utilisée ma donnée, quels sont les bénéfices que j'en retire. Donc, il y a 80% des Français qui estiment que pour accorder leur confiance dans une marque, le premier critère, c'est la protection de la donnée. Donc, vraiment, ça, c'est un enseignement assez fort qui en ressort. Sur la donnée, il y a un autre point aussi intéressant à noter, c'est qu'il y a une polarisation des comportements. Donc, quand on regarde sur les différentes démographies, on se rend compte que sur les générations Z, donc les plus jeunes à partir de on va dire 16 ans, sur ces générations-là, ils sont beaucoup plus enclins à partager leurs données dès lors que les bénéfices sont clairs. Les bénéfices en termes d'utilisation de la donnée pour personnaliser les offres, pour personnaliser les campagnes marketing ou de partager de la donnée en échange d'un bénéfice financier. Donc, ça, c'est sur les générations Z. Sur les baby-boomers, donc à l'autre bout du spectre, là, on a des consommateurs qui sont beaucoup plus frileux et qui sont très attachés à la protection de leurs données et à la transparence des marques sur l'utilisation qui en est faite. Donc, premier enseignement autour de la donnée. Le deuxième enseignement est autour du... donc ça, ce n'est pas une tendance nouvelle, mais autour du digital, de l'explosion du digital. Donc, en fait, ce dont on se rend compte... c'est qu'il y a eu une explosion de la pénétration du canal e-commerce, évidemment, lors du confinement avec les fermetures de magasins. Donc, cette explosion, on a gagné en 2 ans, à peu près 10 ans de pénétration de e-commerce. Donc, ça a vraiment explosé sur toutes les catégories produits. On se rend compte quand même qu'il y a une correction, là, il y a une correction en fin d'année 2021, notamment sur les catégories alimentaires, beauté et santé, où le magasin recommence à retrouver du trafic, de l'attraction. Mais explosion donc évidemment du e-commerce, poursuite du développement des comportements omnicanaux qui se développent sur toutes les catégories produits, c'est entre 4 et 8 points en fonction des catégories. Point intéressant aussi sur l'explosion du digital, c'est le social commerce qui commence vraiment à avoir de la traction business puisqu'on a un Français sur deux qui dit avoir acheté occasionnellement en social commerce au cours des 6 derniers mois. Donc, Instagram, Facebook, le live shopping, ça commence à être un canal qui génère du trafic et de la conversion en termes d'achat. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et enfin, sur les dynamiques de canaux, il y a un point autour du magasin. On parle depuis un certain temps de la réinvention du rôle de magasin. C'est un sujet qui redevient prégnant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le trafic ne reprend pas de manière très, très légère et on ne retrouvera pas avant un certain temps les niveaux d'avant-crise. Donc, il y a un vrai sujet de repenser le footprint du réseau de magasins, sa taille et de réinventer son rôle. On le voit notamment sur les jeunes générations. La génération Z a des attentes en termes de magasins qui sont très différentes des baby-boomers. Ce qu'ils attendent en priorité d'un magasin, ça va être d'avoir un assortiment durable ou des gammes premium. C'est plus des critères comme la largeur de gamme, le prix, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a une évolution des attentes au niveau du magasin. Et enfin, troisième enseignement de ces 2 ans, on va dire, de crise sur lequel on va zoomer aujourd'hui, c'est la consommation responsable. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les comportements de consommation responsable, le Covid a eu un effet catalyseur. Il y a toujours un potentiel de croissance qui n'est pas capturé par les marques et les retailers. On a environ un tiers des consommateurs français qui estiment qu'ils augmenteraient leur niveau de dépense d'achat de produits locaux si l'offre était suffisante. Donc, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande de produits locaux. Donc, il y a un potentiel de croissance à aller chercher pour les marques sur les aspects locaux. Il y a un Français sur deux aussi qui déclare avoir augmenté ses achats durables au cours des 2 dernières années. Donc, il y a vraiment une croissance sur ces sujets de consommation responsable qui continue de progresser. Un point à garder en tête sur la consommation responsable, les intentions d'achat progressent fortement. Il y a toujours un sujet de conversion lié au prix. On a un Français sur deux qui estime que le prix est la principale barrière à l'achat de produits durables. Les produits durables, ça dépend des catégories produits, mais c'est des produits qui peuvent être entre 20% jusqu'à 3 fois plus cher qu'un produit conventionnel. Donc, le prix est la principale barrière pour arriver à capturer davantage de dépenses des consommateurs pour les marques. C'est un sujet qui reste, entre guillemets, à craquer pour les marques, ce sujet du prix des produits durables. Et enfin, dernier point à noter sur la consommation responsable, c'est le développement, et on va en parler aujourd'hui en particulier, de la seconde main. On a un Français sur deux qui déclare avoir acheté un produit de seconde main au cours des 6 derniers mois, donc c'est quelque chose de significatif. C'est vraiment, et on le voit aussi avec les croissances en termes de trafic sur Vinted, on va en parler un peu plus tard, mais la reboucle, le vestiaire collectif, c'est vraiment un des grands, la seconde main, les modèles de location sont un des grands gagnants de la crise du Covid. Donc voilà en termes d'enseignement, donc il y a un vrai sujet pour les marques et les retailers autour de la donnée, protection de la donnée, transparence sur l'utilisation qui en est faite. Il y a un sujet autour des canaux, de réinvention du rôle du magasin et de la taille du footprint, d'accélération e-commerce et notamment social commerce qui se développe fortement. Et enfin, un sujet au niveau de la consommation responsable et de surmonter cette barrière prix pour augmenter de passer d'intention d'achat à une conversion à des achats réels. Voilà un petit peu les grands enseignements qui ressortent de ces deux dernières années.
Merci beaucoup, Jérémy. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition pour pouvoir nous poser des questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur cette partie consommation responsable. Alors, avant de parler de la seconde main dont tu parlais, Jérémy, hein, avec son explosion et le chiffre de l'étude qui est vraiment frappant, de se dire qu'il y a plus de 12 points de plus de personnes qui ont consommé des produits de seconde main sur la période de l'enquête. Ouais. Je vous propose de parler du sujet de la première main et donc de voir, Jérémy, à ton sens, comment les marques et comment les retailers peuvent répondre aux attentes des consommateurs en matière de consommation responsable et en faire des axes de croissance rentable.
Effectivement. Du coup, si on zoome sur la consommation responsable et les achats de première main, le premier critère, on en a parlé, c'est de transformer l'offre pour adresser le besoin de consommation responsable. Donc, quand on parle de transformer l'offre, c'est augmenter la part de produits durables dans l'assortiment. Ça passe par augmenter la part de produits locaux, puisqu'on l'a vu, et si on va à page 5, on se rend compte que la demande de produits locaux des Français n'est pas adressée, et quelle que soit la catégorie produit. Il y a à peu près, donc sur l'alimentaire, c'est 20% de Français qui estiment qu'ils augmenteraient leurs dépenses si l'offre était élargie, et ça peut aller jusqu'à à peu près 30% sur ce qui va être électroménager, consumer électronique, etc. Donc, la première chose, c'est transformation de l'assortiment et poursuivre l'augmentation de la part de produits locaux qui est proposée, puisqu'il y a un potentiel de croissance. Ça, c'est le premier enseignement. Alors, évidemment, ça a des coûts, ça a des implications opérationnelles en termes de sourcing, de fabrication, de supply chain, etc. Mais il y a une vraie attente de produits locaux. Donc, ça, c'est le premier point, on va dire, saillant.
D'accord. Il y a d'autres attributs que l'on voit au-delà du local, je pense.
Il y a d'autres attributs, effectivement. Donc, s'il y a des attributs autour de la traçabilité et du packaging. Donc, si on passe la slide suivante, on se rend compte que quand on demande aux Français quels sont les attributs clés qui sont pris en compte lors d'un achat responsable, ce qui sort en premier, c'est la traçabilité et le packaging. Donc, c'est deux focus très forts dans la consommation aujourd'hui et qui ont progressé depuis 2020 de l'ordre de 3 points. Donc, il y a une vraie attente de transparence et on le voit, si on prend deux exemples, on va prendre deux secteurs différents, mais sur la transparence, il y a beaucoup de réflexions, par exemple, dans la mode ou dans le luxe, sur la transparence avec la mise en place de technologies blockchain. LVMH a beaucoup investi, par exemple, sur ces sujets-là. Il y a un consortium qui s'appelle Aura, avec d'autres acteurs du luxe, pour utiliser la technologie blockchain pour créer un passeport de façon à avoir de la traçabilité sur le produit, sur l'ensemble de son cycle de vie, du sourcing jusqu'à sa revente demain, incluant même des étapes potentielles de réparation hein, qui seraient effectuées sur un sac ou un produit. Donc, il y a un vrai sujet de transparence bien au-delà de l'alimentaire hein, sur toutes les catégories produits. Et il y a une attente d'attributs aussi de packaging. On voit aujourd'hui beaucoup de réflexions sur la bascule vers des packaging durables, papier, carton, des matières organiques. Et on voit aussi beaucoup de marques et de retailers qui essaient de profiter de la bascule vers des packaging durables pour rationaliser les formats de packaging, réduire la diversité de packaging de façon à compenser quelque part le surcoût des packaging durables par des gains de massification des achats de packaging en rationalisant le nombre de formats.
Cette tendance sur les packagings, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a bien entendu toute la loi AGEC et le fait qu'on a un environnement législatif assez contraint avec un timing précis sur la suppression des plastiques. Et puis, ce qu'on voit dans l'étude, hein, c'est ce que tu soulignes, c'est que c'est aussi une attente des consommateurs et donc un levier pour les marques et pour les retailers.
Exactement. C'est deux attributs clés aujourd'hui dans la décision d'achat.
Tu parlais de l'ambiguïté des consommateurs tout à l'heure, que l'on voyait dans la synthèse que tu as faite, parce que le prix est aussi un bloqueur. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ?
Alors, effectivement, il y a une forme de contradiction autour du prix. Très clairement, c'est le premier frein pour augmenter les achats durables ou responsables de la part des Français, puisqu'il y en a un sur deux qui le mentionne. Au-delà de ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même sur un certain nombre de catégories produits comme l'alimentaire, comme la mode, comme l'électronique, il y a une 30 à 50% des Français qui sont prêts à payer un premium. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui nous dit que le prix est un frein important et l'autre qui nous dit je suis prêt à payer plus. Donc, il y a une sorte de polarisation autour du prix. En tout cas, il y a un enjeu très fort pour les marques de répondre à cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Évidemment, les produits responsables, durables, sont beaucoup plus chers à sourcer, à fabriquer. Donc, qu'est-ce que font les marques finalement pour surmonter cet obstacle-là ? Déjà, il y a un sujet de refonte des gammes. C'est extrêmement difficile pour les marques de maintenir la largeur et la profondeur de gamme qu'elles avaient par le passé, compte tenu des contraintes réglementaires que tu viens de mentionner autour du packaging, autour de l'inflation des coûts des matières premières, des coûts de logistique. Donc, il y a un enjeu de rationaliser, de repenser sa stratégie de catégorie, son positionnement pour se positionner vers plus sur des attributs responsables parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs. Donc, il y a un sujet de repositionnement, de repenser sa stratégie de catégorie et de rationalisation de ces gammes de façon à supprimer dans les gammes des produits qui seraient trop coûteux ou trop complexes à reformuler, à repackager. Donc, il y a un premier, on va dire, levier autour de la rationalisation du portefeuille produit. Et il y a énormément de marques dans la cosmétique, dans l'alimentaire qui ont entamé ces réflexions-là avec des réductions de l'ordre de 15 à 30% de l'assortiment de façon à pouvoir libérer des coûts, des capacités de financement pour pouvoir transformer son portefeuille produit vers des produits plus durables. Sur le levier du prix, après, il y a d'autres réflexions autour de mécaniques de prix différentes. On voit par exemple beaucoup de communication autour de la décomposition du prix. C'est-à-dire qu'on communique sur le prix d'un produit responsable ou durable. On décompose le prix de ce produit-là et on le met en perspective d'un produit conventionnel de façon à montrer qu'est-ce qui fait l'écart entre un produit conventionnel et un produit durable et derrière de pouvoir communiquer en expliquant aux consommateurs que l'écart de prix, le premium qu'il va payer est justifié par des matières de meilleure qualité, des matières plus durables, sourcées localement, etc. Donc, sur les notions de prix, il y a un vrai effort de pédagogie pour expliquer l'écart par rapport à un produit conventionnel et le rationnel, entre guillemets, qui explique de payer ce prix premium-là. Cette mécanique de communication de pricing a été mise en œuvre par des marques au départ autour du commerce équitable, etc. Et elle se développe sur des marques classiques, on va dire. Donc, il y a ces logiques de transparence sur les prix, sur la composition du prix et la justification du surcoût, du surprix pour le consommateur, qu'on voit beaucoup aussi. Et enfin, ce qu'on voit pour surmonter cette barrière prix, c'est aussi la transformation de la fidélité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de développement autour de la fidélité engagée, c'est-à-dire finalement de promouvoir des comportements de consommation vertueux. Donc, ça se traduit par exemple, il y a un certain nombre de marques comme Kiabi, pour ne pas les citer, qui vont abonder ou donner des bons d'achat lors d'un achat de produits responsables, offrir des bons d'achat aux consommateurs ou abonder sur les points des consommateurs encartés quand ils ont ce type d'achat. Il y a des marques qui vont offrir des points ou des bons d'achat pour valoriser des comportements responsables. Par exemple, ramener des produits en magasin pour qu'ils soient recyclés. Donc, la fidélité se transforme de façon à pouvoir promouvoir les comportements responsables et en offrant des discounts ou des bons de réduction de différents types. Donc, la fidélité est aussi un bon levier pour concilier consommation responsable et prix ou promotion, en fait. C'est un levier qui est très important.
Merci beaucoup, Jérémy. Et du coup, là, on a fait un focus sur cette tendance sur ce qui est food, fashion, luxe. Guillaume, je vais vous laisser la parole. Ça nous intéresse énormément de savoir en première main sur des sujets d'électroménager. Quelles sont les tendances que vous voyez sur l'électroménager, donc en première main, à la fois voilà, côté des industriels et côté des distributeurs.
Un petit focus, merci Hélène. Un petit focus sur l'année 2020 qui vient de s'achever, une année totalement atypique au niveau du marché, avec plusieurs grandes tendances. Jérémy les a évoquées, c'est-à-dire que tout ce qui est bien d'équipement de la maison, c'est-à-dire qu'avec le Covid, les Français ont refait leur cuisine, ont refait leur intérieur, donc avec à la fois en volume et en valeur, des marchés qui sont sur le 9, quasiment à plus 10, volume et valeur. Quand on a dit ça, après, quand on regarde un petit peu dans le détail, on a une catégorie qui a véritablement explosé en termes d'achat. C'est tout ce qui est relatif à l'outillage aussi, avec un bond en avant absolument incroyable. Paradoxalement, le secteur des mobiles, de l'IT, a non pas stagné, mais eu un ralentissement dans sa croissance, et on le verra, c'est probablement lié à ce qu'on va avoir après, une sorte de montée en puissance extrêmement puissante de la seconde main. Et ce qui a marqué aussi 2021, bah, c'est des phénomènes que les fabricants, les metteurs en marché n'avaient jamais connus, c'est-à-dire des sortes de pénuries, des pénuries liées aux semi-conducteurs notamment, et à partir d'un moment, je crois que c'était à partir d'avril, avril 2021, le problème c'était de pouvoir trouver des imprimantes, de pouvoir trouver des enceintes, des montres connectées, bref, tout un tas de choses qui font appel à ces semi, etc. On a vu, ça c'était une sorte d'euphorie véritablement premier semestre 21. Deuxième semestre, un ralentissement assez marqué, particulièrement au trimestre 4, où probablement les Français se sont à la fois devant les pénuries qui étaient plus accentuées, et puis probablement un petit peu aussi la fin de la période Covid, avec moins de présence à domicile. Et donc, ce qu'on pressent sur 2022, dans les grandes lignes, c'est un retour aux fondamentaux de l'année de référence en termes de mise en marché qui était celle de 2019, en réalité. avec un léger mieux sur les mises en marché par rapport à 2019. Mais un marché qui est globalement assez bousculé par rapport aux fondamentaux des périodes pré-Covid.
Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, merci pour vos questions dans le chat. On reçoit vos questions et il y a une question de savoir si les tendances qu'on a observées là sur la période Covid seraient elles-mêmes durables en fait, hein, et si il y avait un changement de paradigme qui se poursuivait. Donc effectivement, c'est à notre sens, c'est intéressant, Guillaume. Vous dites il y a des choses qui reprennent d'avant 2019 et une tendance. Et effectivement, sur ces questions de consommation responsable, donc peut-être voilà, poussé par les sujets de la crise Covid, mais aujourd'hui poussé par le contexte géopolitique et macroéconomique, on voit effectivement ces tendances qui, à notre sens, vont perdurer. Et dans ces tendances, donc, vous parliez donc, des effets des consommateurs, et effectivement, il y a aussi le sujet de la seconde main. Et donc, je vous propose maintenant qu'on regarde sur ce sujet de la seconde main, Guillaume, parce que donc, vous nous expliquez en première main les tendances que vous voyez et là où vous voyez arriver vos consommateurs, votre rôle et votre raison d'être hein, chez Ecosystème. Donc, c'est aussi d'accompagner cette seconde main et de lui donner du sens. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour nous de comprendre voilà, en termes de réemploi, de réparation, quelles sont les tendances que vous voyez aujourd'hui. Et quels sont les leviers d'action que vous menez aujourd'hui avec vos partenaires sur ces sujets?
Alors là, c'est une tendance particulièrement lourde et la réglementation, vous parliez tout à l'heure de la loi AGEC, a accéléré le dispositif. Historiquement, chez Ecosystème, nous gérons plusieurs millions. L'unité, c'est le million, d'équipements électriques et électroniques usagés. Depuis 2005, on a tissé des partenariats assez puissants avec des ONG, au premier rang desquels Emmaüs, au premier rang desquels aussi des ONG un peu plus spécialisées dans la rénovation d'électroménagers, ou avec la filière qui s'est mise en place en France. Quand vous vous séparez d'un électro-usager lors de l'achat d'un œuf, l'électro-usager que vous confiez à votre livreur préféré, eh bien, Ecosystème va faire un rôle d'interface, c'est-à-dire qu'il va identifier des ONG en capacité de pouvoir, avec un savoir-faire, avec un professionnalisme, rénover. On parle des 3 R, c'est-à-dire réemployer, réutiliser et réparer. Pour éviter un gâchis de matière, pour éviter également un allongement de la durée de vie des équipements. Et sur on récupère à peu près, soit auprès des distributeurs, soit auprès des collectivités locales. Si on fait le focus juste sur les gros appareils, sur le froid, le lavage, le cuisson, de l'ordre de 4 à 5 millions d'appareils par an. Et sur ces 4 à 5 millions d'appareils par an, on a tout un process qui permet aux ONG de les rénover et de les réparer. Il y a une demande qui est incroyablement forte. On l'a constaté depuis 15 ans, elle s'accélère. On était un petit peu dans un désert ces dernières années. On s'est accroché sur le thème de la rénovation, l'allongement de la durée de vie des équipements. Et puis, depuis 5 ans maintenant, parce que la loi AGEC et toute sa préfiguration révèlent véritablement une initiative. Il faut saluer en ça les initiatives européennes sur le sujet, avec des lignes directrices qui sont fixées au niveau européen. Et donc là, on a affaire à un marché qui est totalement en train d'évoluer. Emmaüs a créé Label Emmaüs, une marketplace, il y a quelques années, c'est vous dire. Les acteurs de l'économie sociale, dans ce qu'on appelle l'EIT, alors c'est un terme un peu barbare, c'est l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire qu'il y a des clusters, il y a des réseaux au niveau, Jérémy parlait tout à l'heure de la proximité, au niveau territorial, c'est là aussi c'est très puissant, c'est à la fois des acteurs qui émergent, la réglementation là aussi a permis de faire évoluer le statut de l'économie sociale et solidaire, en créant un statut un peu hybride au sein de l'économie sociale et solidaire, de permettre à des boîtes privées, sous réserve d'un certain nombre de critères, de passer sur de l'économie sociale et solidaire, on appelle ça des entreprises de l'économie sociale et solidaire à utilité sociale, les ESUS. Et il y a un courant très très porteur avec beaucoup de tech associé à ça, le développement du digital et de la tech a largement contribué à l'essor dans les territoires de forme véritablement d'écologie industrielle et territoriale. Et écosystème est au centre du dispositif avec cette notion de mise en relation, aussi d'accompagnement financier, parce que les business plans et les business models sont parfois fragiles, hein. On se dit les choses, sur le réemploi, la rénovation des appareils, avec parfois des faux pas d'un certain nombre d'acteurs qui ont vu peut-être trop grand, qui n'ont pas réussi aussi à recruter les acteurs spécialisés dans la rénovation et dans le réemploi des équipements. Et donc, on peut se dire qu'on fait souvent des benches au niveau européen et on est nous-mêmes affiliés à des associations sur les acteurs du réemploi européen. La France a pris de l'avance. On considère que la France a pris de l'avance dans ce volet-là de l'économie circulaire, de l'allongement de la durée de vie des équipements avec la rénovation et le réemploi des équipements. Là encore, à la fois sur la téléphonie mobile, il y a une effervescence incroyable sur le reconditionnement, le réemploi de la téléphonie mobile avec des modèles à but non lucratif et avec des modèles très lucratifs. Sur quasiment tout le champ, même le retail est aussi en train largement d'évoluer. Des acteurs qui étaient sur le neuf vont continuer bien évidemment à être sur le neuf, mais vont aussi garantir des produits rénovés. Voilà, ça arrive.
D'accord, c'est très intéressant. Donc vous dites que ce n'est pas simplement une petite tendance liée à la crise. Vous voyez un mouvement de fond et une accélération facilitée par la technologie.
Absolument.
Pour la mise en œuvre de ce réemploi et de cette seconde main. Et merci beaucoup, Guillaume. Ça fait exactement écho à ce que l'on voit dans notre étude, hein, où, comme Jérémy vous le disait tout à l'heure, dans l'étude, on voit qu'il y a 50% des Français qui ont acheté de la seconde main, donc voilà, sur les 6 derniers mois. Et donc, qui est une tendance extrêmement nouvelle. Et Mathieu, je vais te passer la parole parce que pour que tu nous expliques, voilà, comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur lorsqu'on est un industriel, lorsqu'on est un distributeur, avec cette tendance. Est-ce que c'est un peu un gadget ou est-ce que c'est quelque chose de très compliqué qui nécessite l'adjonction de différents acteurs, comme l'expliquait Guillaume, avec l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qu'il y a comme modèle et comment on peut arriver à naviguer sur cette opportunité?
Ouais, merci Hélène. En fait, déjà, c'est en termes d'usage, c'est plus 12%. Ils doivent être pris en considérant que le consommateur, il est biphase, c'est-à-dire qu'il est cédant, il veut pouvoir faire des dons, revendre, faire réparer ses produits. Et puis les marques, les enseignes doivent aussi considérer ses consommateurs comme des acheteurs qui veulent avoir accès à des produits d'occasion, cette fameuse seconde main. Et puis si on va plus loin, ils veulent aussi, on voit quand même une remise en cause de la propriété des produits avec le développement d'offres de type location. On peut en reparler aussi, qui est plus émergent peut-être, mais qui est intéressant. Donc des usages qui bougent, des consommateurs qu'il faut considérés comme finalement cédants et acheteurs, ou cédants et consommateurs, et puis des perspectives de volume-valeur. Alors, on l'a dit, c'est plutôt émergent. Sur l'électronique, je pense qu'on est sur un marché qui peut peser de quelques pourcents. Mais si on regarde les perspectives, on a quand même des études qui disent que le marché de la seconde main sur la mode devrait dépasser celui de la fast fashion à 10 ans, que qu'on serait à l'horizon 2030 sur une part de marché de l'occasion, de la réparation de 20% sur le marché de la mode. Donc, on est en train de parler de sujets qui alors on peut prendre ça avec des pincettes, mais on peut parler de volumes qui vont peser, quoi. Et effectivement, on voit des initiatives ou des offres qui se multiplient. On pourrait lister l'ensemble des enseignes. D'abord, ça s'explique peut-être parce qu'il y a des pure players qui captent une partie de ces usages ou qui ont permis de les développer. On a cité Vinted, on aurait pu citer Le Bon Coin, Back Market sur des sujets d'électronique, donc qui ont quelque part aidé à démocratiser l'usage. On a des marques qui lancent ou vont lancer des pilotes, et ça c'est vrai dans un certain nombre de verticales. En bricolage, on a vu Leroy Merlin qui lançait des choses avec Cordon, Castorama avec Back Market. en prêt-à-porter, La Redoute a lancé la reboupe, Petit Bateau est sur le sujet, Zalando, Egg, Cyrillus, Mash, Sandro, on voit que toutes les marques finalement adressent ce sujet-là. Alors beaucoup d'entre elles le font avec des modèles, on va dire, en pilote, mais c'est aussi permis ou rendu possible par ce que Guillaume évoquait, c'est-à-dire il y a des partenaires, des startups, des solutions technologiques qui gagnent en maturité sur la seconde main. Par exemple, des acteurs comme Foam, Trove, Place to Swap, Disruptual, ou des sujets, des acteurs qui interviennent aussi sur des sujets de logistique comme Cordon, Patatam, et sur des sujets de location, je pense à Lizzy. On voit qu'on a tout un écosystème de techno qui se développe. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux sont français, et qui permettent à ces enseignes, à ces marques, de mettre en œuvre les modèles. Ce qui est intéressant dans les modèles, c'est que nous, ce qu'on voit dans les modèles qu'on accompagne, c'est ça nécessite quand même de répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on essaye de traiter comme problème entre la collecte pour le recyclage, la réparation des produits, la revente en seconde main, la location. Ensuite, il y a une question qui est finalement, est-ce que je veux un modèle d'intermédiation? Ce qui était le modèle initial en fait, qu'on a vu, c'était un modèle qu'on qualifierait de C2C, où l'enseigne ne met en relation un cédant et un acheteur, mais finalement ne possède jamais ou ne retravaille pas le produit. Et on voit que cette première vague est en train de se substituer à une deuxième que Guillaume évoquait, qui est les marques commencent à passer ou les enseignes dans un modèle C2B2C où elles se mettent à racheter et à reconditionner les produits avec un enjeu de réparation et de remise à niveau qui, en termes de risque pour les enseignes, est beaucoup plus engageante en fait. Il y a un sujet autour de ce modèle-là. Il y a un sujet autour de l'omnicanalité, c'est-à-dire que finalement, beaucoup des modèles qu'on a vu émerger étaient… soit basé sur le magasin physique où vous rapportiez vos produits, on vous les reprenait, puis ensuite vous pouvez les racheter en magasin, soit un modèle digital où vous pouvez les collecter en digital et les acheter en digital, mais assez peu de modèles où finalement l'omnicanalité était possible, c'est-à-dire je pouvais collecter ou revendre en ligne et puis aller racheter en magasin réciproquement. Donc on voit que ce besoin d'omnicanalité, il commence à arriver et il pose des questions pour les enseignes qui veulent se lancer dans ces sujets-là. Il y a aussi la question de l'offre produit. Finalement, est-ce que je remets dans cette économie circulaire toutes mes catégories, certaines? Est-ce que je remets les produits de mon enseigne ou les produits de ma catégorie, que vous les ayez achetés chez moi ou pas? Il y a quand même aussi une question autour de la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on voit que les acteurs qu'on évoquait, Vinted, Back Market, sont assez installés sur ces marchés-là. Donc, quand vous êtes une marque ou une enseigne, vous devez vous demander… qu'est-ce qui va faire que votre offre va attirer des consommateurs versus un endroit où, quelque part, il y a une audience déjà là, il y a l'assurance, il y a vraiment une offre. Et puis, Guillaume l'évoquait aussi, il y a un sujet de modèle et rentabilité. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignes rentrent là-dedans en disant bon, bah, c'est une façon de recapter une audience et une part de marché qui est en train de nous échapper parce que quand vous êtes une enseigne et que vous voyez sur ces grandes plateformes un nombre important de produits de votre marque qui est en circulation et sur lequel il y a des achats et des transactions, vous avez envie de les faire revenir chez vous. Et est-ce que vous arrivez à construire un modèle rentable ou un minimum, j'allais dire, qui ne vous fait pas perdre de l'argent? C'est une question en tant que telle, en fait. Donc on voit que tout ça, nous, c'est des questions que dans les phases de cadrage, on adresse avec les marques parce qu'on a plusieurs options pour activer ces modèles. Et en tout cas, finalement, moi, je dirais que 2021 a été l'année du lancement des pilotes. On prend la mode, il y a très peu de marques qui n'ont pas encore d'offres de ce type-là.
D'accord. Et du coup, en termes de vraie création de chiffre d'affaires ou de rentabilité pour les marques, comment ce sujet de la seconde main peut ne pas venir éroder à la fois la rentabilité et les revenus des marques? C'est un peu la question que tu poses, Mathieu, mais il y a un de nos participants qui pose la question de savoir si ce sujet de la seconde main, est-ce que c'est vraiment un sujet de conscience et de volonté de consommation responsable, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une question pragmatique de consommer des produits à plus bas coût? Et moi, en tant qu'industriel ou en tant que retailer, comment je m'assure de ne pas venir éroder mon chiffre d'affaires avec le lancement d'offres de seconde main, par exemple?
Alors ça, il faut travailler le modèle, mais je pense que d'abord la façon dont nous on voit les enseignes appréhender cette question, ce n'est pas uniquement bien sûr il y a la question de la rentabilité, mais ce n'est pas uniquement une question de volume d'affaires et c'est aussi une façon de se dire aujourd'hui je vois des consommateurs qui étaient attachés à ma marque, à mon enseigne et qui se mettent à consommer mes produits pas chez moi en fait. Et quand, si on se projette et qu'on se dit 10% des volumes de ma marque vont être à horizon quelques années potentiellement des produits d'occasion, tout l'enjeu des enseignes, c'est de ramener ce trafic et ces consommateurs dans l'univers de la marque. Et pourquoi? Parce que ça permet de fidéliser, ça permet d'augmenter les transactions. Et quand vous venez acheter des produits d'occasion, vous pouvez aussi avoir des logiques de cross-sell, avoir envie de racheter des produits neufs en même temps. Tout l'enjeu, c'est de ramener les consommateurs et l'économie, on va dire, seconde main, dans le canal traditionnel, quoi. Et ensuite, ça permet aussi de collecter beaucoup d'informations et tout un enjeu de data autour des consommateurs. Après, il y a le sujet de la rentabilité. Donc, on voit qu'en fonction des modèles et en fonction du niveau d'ambition, de l'omnicanalité, et du niveau de lean qu'on arrive à faire, je pense qu'on peut ambitionner d'avoir, nous, on a fait des BP pour certaines enseignes, on peut avoir des niveaux de rentabilité qui sont positifs, en fait. Bien sûr, on part en disant qu'il faut qu'ils soient à l'équilibre, mais on arrive avec des choses qui ne sont pas... qui sont pas nuls. Oui.
D'accord. Merci beaucoup. Guillaume, vous parliez donc des mécanismes, enfin Mathieu aussi, hein, tu en parlais des organisations autour de la réparation. Et qu'est-ce que vous voyez comme tendance intéressante ou comme pilote intéressant sur ces sujets-là? Parce que vous parliez, Guillaume, hein, de l'équilibre de l'économie. Ou de l'équilibre économique, pardon, sur la réalisation de cette réparation. Qu'est-ce que vous voyez comme pilotes qui sont prometteurs?
Dans notre secteur en particulier, on va injecter, c'est des sommes assez lourdes, quasiment un demi-milliard d'euros, 410 très exactement, sur le secteur de la réparation d'ici à fin 2027. Tout simplement parce que on met en place dans quelques jours, le 4 avril, très exactement, ça doit être lundi, un nouveau dispositif pour les Français, c'est quasiment unique en Europe, c'est un dispositif de subvention de la réparation pour permettre d'abaisser le coût de la réparation sur toute une gamme de produits. On commence sur les produits de consommation et ceux qui vont se faire réparer le plus souvent. La téléphonie mobile, les ordinateurs portables, la machine à laver, bref, des produits, les unités se comptent par centaines de milliers. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de réparations en France sur le hors garantie, généralement au bout de 2 ans. On a l'ambition de faire plus 20% de réparations à très court terme. Et donc, il y a des modèles économiques là aussi qui arrivent, avec à la fois une offre et une demande. Donc nous, notre boulot, ça va être de relancer tout le sujet de la réparation. Les Français ont parfois un rapport un peu ambigu avec la réparation. On a tous eu parfois des difficultés avec certains réparateurs. Donc nous, dans notre boulot, là, pour faire ces 20% de réparation en plus hors garantie, ça sera déjà de trouver des réparateurs, de les labelliser et ensuite d'expliquer aux Français. Une fois le réseau constitué, on a à peu près 5 à 6 mois pour le constituer. Donc à partir de septembre, ça va être, si on ne s'est pas trompé, dans toutes nos datas, parce qu'on a crunché pas mal, ça va être un coût de réparation qui devrait baisser de 26%.
D'accord.
L'univers des produits que je viens de citer. Donc là, c'est inédit, hein. Ça ne s'est jamais fait. On va le faire. Sur le R de réparation, on va le faire aussi sur le R de reconditionnement, rénovation des équipes. Et là aussi, ça va être encore un puissant levier dans une politique au sens large de prévention et de nouveaux modèles associés à ça. Et bah, c'est une belle histoire et c'est une histoire qui va s'accélérer et on pense que ça va encore bouleverser tout le marché.
C'est extrêmement intéressant. Merci, Guillaume. Alors, on parle de beaucoup de choses et de bons sentiments. Je vais être sûre que ce n'est pas que du bon sentiment parce qu'à côté de ça, on voit aussi des consommateurs qui vont être livrés pour leurs courses en moins d'une demi-heure ou des livraisons voilà, dans la journée. Jérémy, Mathieu, moi j'avais une question, c'est de voir, voilà, Est-ce que cette tendance de la consommation responsable, comment arrive-t-elle à s'articuler avec les exigences des consommateurs ou les envies des consommateurs sur un certain nombre de critères de rapidité, sur lesquels communiquent certaines marques d'ailleurs, hein, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque part des renoncements que les marques doivent opérer? Tout à l'heure, Jérémy, tu parlais d'une pédagogie que les marques doivent opérer auprès de leurs clients. Comment vous voyez les choses entre l'ambiguïté des consommateurs, voilà, qui veulent des choses très, très proches d'eux, très nouvelles, très vite livrées, et puis à côté de ça, une consommation plus responsable?
Effectivement, il y a renoncement est un mot fort, mais il y a probablement un certain nombre de rééquilibrages qui doivent être effectués. On en parlait tout à l'heure, mais déjà au niveau des offres. On en a parlé, probablement que le maintien d'une offre, d'une largeur et d'une profondeur de gamme n'est pas, on va dire, en phase avec un repositionnement significatif vers la consommation responsable, parce qu'il génère un certain nombre de surcoûts, de complexité qui fait que c'est difficile de tenir. Donc la bascule vers un modèle de consommation responsable plus fort implique très probablement, quelle que soit la catégorie produit, un travail sur son offre, sur sa largeur et profondeur de gamme, donc sur sa rationalisation, suppression de certaines références produits, etc. Donc, il y a un premier sujet, c'est rééquilibrage de l'offre vers de la consommation responsable, donc bien comprendre où est-ce que le client, le consommateur, quelles sont ses attentes, quels sont les attributs qu'il valorise sur la catégorie produit, de façon à réduire la largeur de gamme et à cibler les produits qu'on va transformer, qu'on va reformuler, qu'on va repackager, pour pouvoir les proposer aux consommateurs. Donc, premier arbitrage, je dirais qu'il est autour de l'offre. Et on l'a vu, la crise ukrainienne, etc. On a une accélération de la rareté sur les matières premières, des coûts qui augmentent, etc. Donc, ces renoncements-là sont clés, les réflexions autour de l'offre. La deuxième, c'est au niveau des promotions. On est dans un modèle, là aussi, quelle que soit la catégorie produit, qui est extrêmement promotionnée. Des événements promotionnels tout au long de l'année, des événements très forts, on le voit comme le Black Friday, etc. Donc, retravailler sa mission, sa proposition de valeur, son positionnement vers une consommation responsable, ça doit aussi déclencher une réflexion autour de sa stratégie prix et promotionnelle. On voit un certain nombre de marques qui décident, par exemple, de ne pas participer au Black Friday ou de faire des contre-Black Friday, c'est-à-dire de proposer pendant le Black Friday, de faire des dons à des associations, de ne pas vendre un certain type de produit pendant le Black Friday. Enfin, il y a tout un tas de contre-initiatives qui se mettent en œuvre, et probablement qui vont se développer parce que ce n'est pas soutenable d'avoir ce double positionnement, consommation responsable et promotion permanente et très agressive. Donc, la promotion n'est pas terminée, c'est absolument clé, évidemment, pour le consommateur, mais il y a un équilibre, à trouver à ce niveau-là. Et du coup, cette transformation, ce repositionnement vers la consommation, cette transformation de son offre, de sa stratégie de prix et de promotion, évidemment, elle implique une transformation des opérations. C'est une transformation complète du modèle, en fait. Hein. On ne peut pas décider d'adresser la consommation responsable en transformant une partie seulement. Et sur les opérations, évidemment, il y a de gros enjeux de sourcing, de retrouver de trouver des matières premières alternatives, de travailler un sourcing beaucoup plus local. Donc ça passe aussi par un accompagnement de ces fournisseurs. Les marques, les retailers développent des programmes pour accompagner les fournisseurs, pas seulement pour les auditer, mais aussi pour les faire monter en compétence sur ces sujets-là. Ça passe évidemment par une transformation de sa fabrication. On voit un certain nombre de mouvements de relocalisation de la fabrication ou à minima de nearshoring au Maghreb ou autre. Un travail au niveau de la supply chain aussi. Donc, il y a vraiment une réflexion complète sur le modèle de la stratégie jusqu'aux opérations qui doit être fait pour pouvoir être cohérent, en fait, entre ce qu'on propose en termes de consommation responsable au consommateur et son modèle. Ça implique une réflexion assez structurel, en fait.
D'arriver à en tirer profit, de profiter aussi de la frange de consommateurs qui est prêt à payer plus cher pour ces sujets-là, de savoir comment on la capte, etc. Effectivement, et Mathieu, tu parlais des nouveaux modèles. Effectivement, hein, tous ces nouveaux modèles de seconde main, de location.
Je vais peut-être compléter ce que disait Jérémy. Je pense que c'est une période où il faut, pour les enseignes, gérer une forme d'ambiguïté en même temps sur différentes dimensions. C'est-à-dire qu'il y a dans les questions, on voit, il y a finalement, est-ce que les gens, les consommateurs viennent consommer tous ces produits circulaires pour des raisons de prix ou pour des raisons de conviction. C'est extrêmement difficile de faire la part des choses, mais en fait, effectivement, on voit que le prix, globalement, on est sur des produits qui se vendent à 30% du prix initial, donc il y a un vrai enjeu de bon deal, quoi. Et en même temps, il y a une forme d'usage et de conviction qui se répand, et les deux se font en même temps. Et sur ta question, Hélène, qui était finalement, comment est-ce qu'on fait pour gérer dans le même temps le développement d'offres de quick commerce où il faut livrer en 15 minutes, et dans l'autre côté, faire de la fast fashion avec des produits et des gammes qui seront nouvelles tous les 6 semaines, et ben, finalement, c'est toute la difficulté, l'ambiguïté, c'est qu'il faut arriver à faire les deux en même temps aujourd'hui. Et dans des demandes qui sont, et c'est une des questions qui a été finalement, est-ce qu'on est sur des sujets de bobos parisiens nous, on a travaillé pour des enseignes qui ont 10 millions de clients en France avec tous les niveaux de CSP. Et en fait, 70% des clients et des clientes de l'enseigne avaient déjà fait des achats de seconde main. Donc, c'est pas un sujet de Parisiens et de grosses métropoles et de gens de trentenaires qui ont envie de s'acheter des baskets déjà, quoi. C'est vraiment un sujet plus large que ça, quoi.
Exactement. Et pour compléter effectivement ton point, Mathieu, c'est exactement ça. La géographie, quelque part, ne joue pas. Il n'y a pas un urbain et campagne, entre guillemets, sur ces sujets-là. On l'a regardé en analysant les données. Le seul critère où on va avoir des attentes de consommation responsable qui sont beaucoup plus fortes, c'est quand on le regarde par démographie. Où là, on se rend compte qu'effectivement, sur les milléniaux, les générations Z, donc les plus jeunes, il y a des attentes beaucoup plus fortes que sur des populations un peu plus seniors. Mais effectivement, sur les aspects on va dire géographiques, c'est des préoccupations qui sont partagées par tous.
D'accord. Ah oui, super. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un certain nombre de questions. On a eu beaucoup de questions dans le chat. Merci beaucoup à nos participants. Et donc, la première question, c'était de savoir si les tendances qu'on a observées pendant la période Covid seraient elles-mêmes durables ou pas. Et finalement, est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui se produit ou est-ce que c'était quelque chose spécifiquement lié à la période que l'on a traversée. Alors, je pense qu'on y a un petit peu répondu, mais peut-être que c'est important de vous repartager nos convictions.
Ouais, alors, pour un mot là-dessus, et Mathieu pourra compléter, et Guillaume, mais on est sur des tendances de fond, on est sur des tendances structurelles. Le Covid n'a pas, entre guillemets, créé de nouvelles tendances. Ça a été un catalyseur de choses qui étaient existantes. La consommation responsable, ça a démarré il y a un certain temps. L'explosion digitale, dont on parlait aussi. Donc, on est vraiment sur un effet d'accélération de ces comportements de consommation-là, notamment la consommation responsable. Donc, c'est quelque chose de très durable. Si on prend un autre exemple, on parlait du magasin. Le rôle du magasin qui doit se réinventer face à cette explosion du e-commerce, on est sur quelque chose de pérenne, c'est-à-dire que à part sur l'alimentaire et sur la beauté et la santé, on voit une légère correction où il y a un peu de retour de trafic. Globalement, le magasin a beaucoup de mal à se régénérer, à régénérer du trafic, à se revitaliser. Donc on est vraiment sur des tendances durables. On n'est pas sur des épiphénomènes.
J'ajouterais juste que, pour compléter les propos de Jérémy, il y a aussi un sujet en ce moment qui va amener probablement à l'essor encore plus fort de la seconde main, c'est le sujet pouvoir d'achat.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment une tendance, c'est vraiment une tendance de fond qui va encore marquer, je pense.
Oui, et Guillaume, je rebondis, vous parliez de l'inflation sur les matières premières, et c'est effectivement aussi de nature en lien avec le pouvoir d'achat, ouais, à favoriser ces tendances. Ouais.
Absolument, nous on gère des mines urbaines, tout ce que détiennent les Français, dont ils ne se servent plus, etc. Il y a, jusqu'à présent, pour nous, le volet mines urbaines, c'était comment instaurer des politiques de recyclage, de dépollution et de boucles fermées pour faire en sorte que la matière ne se perde plus et revienne dans les process de fabrication dans une sorte de boucle fermée d'économie circulaire. Ça, c'était le premier volet des mines urbaines. Maintenant, en complémentarité, c'est comment faire en sorte que les appareils puissent avoir une durée de vie allongée à travers des réseaux de réparateurs et de reconditionneurs au niveau de, avec une proximité pour le consommateur qui lui permet d'avoir la traçabilité et les garanties associées. Dès lors qu'il y a des garanties associées sur les appareils rénovés et reconditionnés, le marché a un potentiel incroyable.
Merci Guillaume. Dans un de nos participants posait la question des subventions dont vous avez parlé. Alors, bien sûr, elle s'adresse sur le sujet de l'électroménager. Et d'un point de vue plus large, comment vous voyez ce sujet des subventions ?
C'est un vecteur assez puissant pour bousculer le marché. Il faut à la fois qu'il y ait un intérêt pour le consommateur d'avoir une baisse du coût de la réparation. Il faut en même temps créer l'offre. Notre boulot chez Ecosystem, ça va être aussi, c'est un sacré job, recréer de l'intérêt sur certaines professions. Aujourd'hui, il y a une pénurie totale, avec des chiffres impressionnants de postes sur des domaines de la réparation, à tel point qu'il y a un vrai engouement maintenant aussi sur un développement des artisans et des auto-entrepreneurs qui se lancent sur le sujet de la réparation. Ça aussi, c'est une tendance profonde. Donc, le domaine des subventions, c'est un domaine, effectivement, pour nous, qui peut être un fort accélérateur aussi du sujet de la rénovation. Et encore une fois, la France est quasiment le premier pays à faire ça dans toute l'Europe. D'autres pays font plutôt des chèques réparation, un petit peu sur ce que la France a pu faire sur le chèque énergie. Mais là, c'est véritablement... Et ce dispositif-là est parti. Ce n'est pas un dispositif temporaire. C'est vraiment un dispositif d'accompagnement de marché. Et rendez-vous très vite sur ce bonus, sur ces subventions, parce que ça démarre bientôt. Hein.
Oui, d'accord. Et puis de façon plus large, hein, tous les sujets de subvention liés à la relocalisation, on parlait dans cette volonté de consommation plus responsable, le fait de consommer plus local et donc effectivement avec tout l'accompagnement qui existe et qui a été mis en place maintenant depuis plusieurs mois par les pouvoirs publics et européens sur la mise en œuvre de la relocalisation et l'aide à la relocalisation. Donc voilà. Écoutez messieurs, je vais... clôturer cette séance en vous remerciant beaucoup pour cet échange. Donc, je pense que vous avez partagé avec conviction, une conviction que j'ai, qui est de dire que voilà, une consommation responsable, c'est aussi un vecteur de croissance rentable pour les entreprises et de création de valeur. Mais comme tu l'as très bien expliqué, Jérémy, ce n'est pas quelque chose qui se passe par accident, donc ça s'organise. Ça demande de repenser les choses. Et Guillaume, un très, très grand merci pour votre éclairage parce que vous êtes bien dans le concret sur ce sujet qui nous concerne tous. On a tous plein d'appareils électroménagers dont on ne se sert plus à la maison. Donc, effectivement, on sait la complexité de ce sujet. Et derrière, voilà, vous déroulez ça avec beaucoup de conviction. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et puis, merci à vous tous d'avoir participé à cette Webex. Et à très bientôt pour partager, en lien avec cette étude sur la consommation, d'autres tendances que nous avons vues à travers cette étude et puis d'autres tendances que nous voyons aussi dans la consommation en France. Et surtout, si vous avez d'autres sujets que vous avez envie de voir traités, n'hésitez pas à nous les partager et on sera ravis de pouvoir organiser de nouvelles conférences. Merci à tous et très bonne journée.
Merci.
Merci.